l'invité de Radio Pont.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Pont. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Alain, du comité anti-expulsion, et qui représente aussi Emmaüs pour certaines actions, et Marc Sauvager, qui est représentant aussi du réseau Pontois, entre autres, oui. Pour le comité anti-expulsion.
Oui, réseau Pontois, voilà. D'aide aux étrangers.
Aujourd'hui, ils sont là pour nous parler d'un événement qui aura lieu à Saintes, le 20 octobre, de 9h à 18h, à la salle centrale près de la médiathèque de Saintes. C'est une foire aux livres et aux vieux papiers, cartes postales, journaux, photos et affiches, et qui sont issus de dons, c'est ça ?
Une partie est fournie par Emmaüs lors de ses collectes, et deux fois par an, le comité anti-expulsion Saintet procède à des appels à dons de bouquins qui sont ensuite retriés, marqués, sélectionnés sur le site d'Emmaüs Saint-Romain-de-Bonnet.
Oui.
Par nos soins et avec l'aide effectivement de la communauté et des compagnons.
D'accord. Voilà. Donc vous faites cette collecte régulièrement ?
Alors deux fois par an il y a une collecte, et
oui.
En vue de cette vente du mois d'octobre qui devient traditionnelle, puisque c'est la cinquième année je crois, qui rencontre un franc succès puisque les gens se montrent impatients même de connaître la date longtemps avant pour
s'organiser
parce que et y aller. Voilà.
Donc cette vente, elle est pour tout public, hein. Elle n'est pas que pour des collectionneurs.
Ouais,
elle
absolument.
Est... Voilà.
Y a des choses anciennes qui sont mises à disposition des collectionneurs, effectivement, ou des... Et ensuite, après, ça s'adresse aux familles, hein, parce qu'il y a autant du roman, il y a autant de la bande dessinée pour enfants ou pour adultes, il y a un choix très large, et on doit reconnaître que c'est pour un prix défiant toute concurrence, hein, comme les habitués d'Emmaüs connaissent,
hein, oui.
les évaluations qui sont faites, et c'est tout à fait abordable, et c'est dans la solidarité globale que l'on trouve un intérêt à collecter des sommes, bon, dont on pourra parler de l'utilisation par la suite, si vous voulez, et qui sont réparties équitablement entre Emmaüs et le comité anti-expulsion Sainté.
D'accord.
En fait, à la différence d'une brocante,
oui.
Où on trouve de tout,
hein, oui.
Ce sont uniquement des livres. Donc, chacun peut y trouver... pour un prix très modeste,
oui.
De quoi le satisfaire. Hein. Alors que dans une brocante, il faut trier, etc. Là, c'est préparé.
Hein. D'accord. Et donc, avec cette collecte de fonds, vous menez des actions.
Il y a deux volets. Hein. Il y a le volet Emmaüs
et Emmaüs,
le volet
oui.
Le comité anti-expulsion.
C'est ça.
Bon, ben, Emmaüs, il est inutile de le présenter. C'est une association qui maintenant, depuis 1954, œuvre à la dans le sens que l'on connaît, et c'est devenu un acteur de la solidarité qui est incontournable. Bon, pour ce qui est du comité anti-expulsion, il demande peut-être une petite précision de présentation. C'est un comité qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui a été créé à la suite des menaces qui se présentaient d'expulsion des demandeurs... soit des demandeurs d'asile, soit des demandeurs de visa, d'autorisation de séjour, y compris à la sortie des écoles. Enfin bon, ça avait levé une protestation assez importante. Et à la suite de ça, donc, le comité anti-expulsion a été créé. On a plus tendance maintenant à se baptiser comité d'aide aux étrangers, CAE, c'est le même sigle, mais ça correspond un peu mieux.
Oui.
Et puis, c'est pas dans l'opposition anti-expulsion, ouais. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, mais voilà, les interlocuteurs maintenant qu'on en a, dans le milieu social, des préfectures également, hein, aussi bien la préfecture de La Rochelle que de la préfecture de Poitiers, on nous reconnaît plus comme comité d'aide aux étrangers, voilà, Sainté.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt un mouvement d'opposition.
Oui.
À un moment où il y avait effectivement comme des menaces sur un certain nombre de personnes qui étaient sur le territoire français.
Oui.
Alors que maintenant, la politique est moins répressive.
Oui.
Mais elle est répressive d'une autre manière, à savoir que c'est les étrangers qui sont sur le sol français sont face à des démarches administratives qui sont extrêmement complexes, y compris pour nous.
Hein. Oui.
C'est un moyen aussi de s'opposer à leur maintien sur le territoire.
Ce sont des familles que vous accompagnez
Lors des permanences juridiques, juridiques entre guillemets, que l'on propose tous les jeudis après-midi à la Maison de la Solidarité à Saintes.
D'accord.
On reçoit donc, la porte est ouverte, sans rendez-vous, donc tout le monde peut se présenter. Souvent, ce sont des familles complètes qui viennent nous demander des conseils pour les démarches administratives, comme le disait Marc, et un accompagnement également dans la rédaction des demandes, dans l'accompagnement également sur place, puisque des fois les demandeurs d'asile, par exemple, sont obligés d'aller à Poitiers. Bon, c'est une procédure très longue et compliquée et qui demande une présence à côté de ces gens qui ne s'expriment pas toujours facilement dans les premiers rendez-vous avec les préfectures de région. Et comme disait Marc, il y a une espèce de barrière qui a été construite autour des préfectures, essentiellement les préfectures départementales, qui font que les demandeurs ne peuvent plus avoir de contact direct avec les services, le service des étrangers, à des degrés différents selon les départements, parce que là, après, ça dépend sans doute du préfet, du zèle de certains fonctionnaires, du directeur local du service des étrangers. Bon, à La Rochelle, on n'a pas eu beaucoup de chance, parce que le directeur a fait tellement de zèle qu'il s'est mis en avant et a été proposé pour être sous-préfet de Calais. C'est dire le zèle qui lui a été reconnu dans le blocage des demandes. Hein, pour arriver à Calais, quand même, qui est une situation hyper tendue, il fallait que...
Quelqu'un de compétent.
Quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc, c'est vrai qu'à La Rochelle, il a fait ses preuves en construisant une espèce de...
En mettant en difficulté des gens, on va être clair.
Voilà, par des refus non justifiés ou par des...
D'accord.
Pour vous donner un exemple tout à fait récent. Au CAE, sont prises en charge plutôt des personnes qui sont hors du cadre des demandeurs d'asile. Puisque là, il y a un organisme, il y a l'Office français de l'immigration, il y a l'OFPRA qui font des démarches. Mais ces démarches sont extrêmement compliquées. Hein. Et parfois, même nous, on a du mal à trouver le lien. On va vous demander les mêmes papiers à Poitiers, à la préfecture de région à Poitiers, et les mêmes papiers à la préfecture de La Rochelle. Bon, ça, c'est déjà un exemple. Il y a quelque temps, nous avons réussi à faire venir quelqu'un, ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est un droit. Donc, la femme est en France légalement, le statut de réfugié. Donc, le mari, n'étant pas encore en France, avait le droit de venir. Bon, on a fait de démarches. Je ne donne pas de nom, ni etc. Donc, le mari est en France, reçoit son papier de l'OFPRA, Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, il avait son attestation de demandeur d'asile. Elle était provisoire, donc il fallait l'attestation définitive. L'OFPRA lui envoie un papier comme quoi il devait se présenter, je me rappelle très bien le mot, « Vous devez vous présenter sans délai à la préfecture de La Rochelle ». Par précaution, je téléphone à La Rochelle, je téléphone à la préfecture en disant « Est-ce que je peux me présenter ou est-ce qu'il faut demander un rendez-vous ?»« Ah ben vous pouvez vous présenter, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous présenter ». Donc, nous sommes allés à La Rochelle et là nous avons été accueillis par quelqu'un qui nous a dit « Mais attends, il faut demander un rendez-vous, je vais l'écouter ». D'abord, regardez le papier, c'est marqué dessus. Ensuite, par précaution, j'ai téléphoné. Mmh. Ah, vous avez été mal renseigné. C'est décourageant. Hein. Et vous avez l'impression, étant étranger, de ne pas être accepté sur le territoire.
Oui.
Hein. Ça, c'est un exemple. Et encore, c'est minime, hein, ça.
Donc, vous les soutenez pour les démarches administratives. Vous les soutenez concrètement en les accompagnant. Ouais. Et ces personnes, donc, en attendant qu'elles aient des futurs droits, on va dire... bien qu'ils en ont déjà, puisque vous luttez pour eux, ou avec eux. En attendant, ils ont besoin d'aide, peut-être au niveau des logements, vêtements, nourriture, etc. Donc ça aussi, vous les accompagnez à ce niveau-là pour être aidés.
On a un réseau virtuel, un réseau de correspondants, d'adresses mail, par exemple. Et quand l'affaire se présente, une demande ou un besoin urgent se présente, on lance des appels. Et ponctuellement, on retrouve des solutions. Toujours provisoire, bien sûr, hein, parce que ça pose des... l'hébergement volontaire comme ça et solidaire ne peut pas être pérennes, quoi, dans, d'une façon générale. Donc souvent, ce sont des solutions de dépannage qui durent plus ou moins longtemps, en attendant l'évolution de la situation administrative de la, des personnes en question. Ça s'est posé récemment de façon plus aiguë avec l'arrivée de mineurs isolés sur le territoire, et ces mineurs isolés, normalement, doivent être pris en charge par le conseil départemental, le secteur social du conseil départemental, en tant que mineur. Mais il y a, des lenteurs administratives qui font que c'est pas immédiat, donc les solutions d'attente, il faut trouver un hébergement local. Bon, ça se, chaque ville, comme La Rochelle, par exemple, Rochefort, ont des correspondants, si vous voulez, au même titre que notre comité local à Saintes, et on arrive à trouver des solutions d'attente. Quand effectivement, il ne faut pas faire des recours au tribunal des enfants pour faire valoir les droits de ces jeunes qui arrivent.
Parce qu'il y a un deuxième problème. Bon, ces jeunes sont seuls, le plus souvent, et ils ont souvent des difficultés pour prouver qu'ils sont mineurs. L'administration conteste le fait qu'ils soient mineurs. Alors, s'ils n'ont pas de papier jugé fiable comme quoi ils sont mineurs, alors il y a deux attitudes. Soit on les refoule, soit on fait traîner le dossier en attendant qu'ils soient majeurs. C'est une autre manière aussi de masquer le problème. Donc, tous ces jeunes, ils sont dans la nature, complètement perdus, ne parlant pas toujours le français, et puis évidemment complètement démunis face aux difficultés administratives, quoi.
Et le recours au tribunal des enfants, puisque ça ressort du tribunal des enfants, c'est encore une démarche qui, dans les premiers temps, prenait 3 semaines, 15 jours, pour avoir une convocation et une décision. Maintenant, on en est à un recul de 3 mois, voire plus. Donc, en attente de la décision du juge des enfants, les solutions d'hébergement restent à la charge de la...
Quels sont les organismes qui vous aident? Quels sont les organismes qui vous aident à côté de ça? Non, alors, vous êtes
officiel. À Saintes, il y avait à une certaine période le CCRS qui s'investissait pas mal dans l'aide. Il y avait le conseil départemental, les assistantes sociales du conseil de la délégation territoriale de Saintes étaient assez actives, mais toutes ces sources d'aide se sont progressivement taries. Bon, les décisions ont été prises à des niveaux supérieurs pour que les aides se restreignent. Je ne parle pas que des aides financières, je parle aussi de l'assistance. Par exemple, des assistantes sociales, l'aide des assistantes sociales devient difficile à solliciter. Par contre, on a quand même, le comité a de bonnes relations avec ces instances-là. Quoi.
Ces instances s'adressent parfois au CAE. Parce qu'ils ont des difficultés, des difficultés à interpréter les textes, etc.
Bon,
c'est vrai, si vous voulez, il y a un échange avec ces organismes administratifs, qui ont une existence officielle, mais qui ont des difficultés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est plutôt dans une période où on essaie de supprimer un certain nombre de postes, et le secteur social est durement touché.
Oui.
Et on n'a jamais voulu rentrer dans le format associatif, parce que c'est un... Comment dire? Ce serait s'institutionnaliser, en fait, alors que... Et vouloir prendre la place des obligations, enfin, pallier les obligations des institutions qui devraient se charger de tout ça, de ces prises en charge.
Vous accompagnez à peu près combien de personnes?
Alors, on a
c'est
fait,
par période c'est dur.
L'année dernière, on a fait une statistique, un comptage, si vous voulez, mais on n'est pas très adepte de ce genre de compte, des rendez-vous qu'on a eus lors des permanences. On est arrivé à 150 ou 170 rendez-vous dans l'année, mais pas des personnes différentes. Souvent, ce sont des personnes qui viennent très régulièrement renouveler des demandes, prendre des nouvelles de leur de l'évolution de leur dossier en préfecture, et même solliciter une aide dans la prise de rendez-vous informatique, parce que à La Rochelle maintenant, les rendez-vous deviennent informatiques, ce qui n'est pas à la portée de tout.
tous les
demandeurs. Hein. Donc, ouais. On compte aussi dans ces 170 personnes les demandes ponctuelles. Ouais. Voilà.
C'est pour ça, c'est très difficile à chiffrer, parce que les réalités sont très différentes. Il y a une famille arménienne qui est en France, géorgienne, qui est en France depuis je ne sais pas combien de temps. Ça fait 3 ans qu'ils sont en France.
On pense aux mêmes, ça fait un peu plus.
Maintenant. Oui, ça fait plus. Hein. Bon, et on les suit, ils sont en difficulté, ils font valoir leurs droits. La situation, c'est des gens extrêmement. Des gens bien, il n'y a pas de problème. Des gens compétents, qui ont un niveau intellectuel dont beaucoup d'entre nous pourraient souffrir. Mais bon, oui.
Malheureusement, leur situation, effectivement, malgré toutes les preuves qu'ils ont apportées de leur capacité, alors on va dire un mot que j'aime pas, d'intégration. Moi, je me pense ce mot-là.
Et leur difficulté dans le pays d'origine.
Oui, mais là, c'est débouté du droit d'asile. C'est la situation de beaucoup de demandeurs d'asile qui, une fois déboutés, restent sur le territoire. Et bon, n'espère qu'une chose, que la préfecture, pour des raisons familiales, puisque ça ressort de la décision préfectorale, pour des raisons familiales ou des situations exceptionnelles, accepte de leur donner une autorisation de séjour. Mais on connaît des familles qui sont là depuis 7, 8, certains même 11 ans, hein, une famille à Sainte qui est là depuis 11 ans, pour lesquelles on renouvelle régulièrement les demandes.
Qui
n'aboutit jamais. Voilà.
Et en attendant, est-ce qu'ils peuvent travailler légalement ? Est-ce que les enfants peuvent être scolarisés normalement ?
La prise en charge scolaire est obligatoire par l'État. Oui. La prise en charge sanitaire, c'est-à-dire tous les besoins de santé, est obligatoire par l'État. Mais ils n'ont pas le droit de travailler, effectivement. Bon, là, de ce côté-là, le CAE ne se charge pas de...
On n'est pas recruteur.
On n'est pas recruteur. On donne des pistes parfois, mais c'est par connaissance.
Non, on ne veut pas jouer. On ne veut pas jouer le facilitateur de travail clandestin. Oui. C'est pas notre rôle.
Parallèle, on va dire.
Et ça nous mettrait même en difficulté. On essaie de les faire accéder à certains droits reconnus par le droit international et le droit français. Bon, c'est l'essentiel de notre démarche. Hein.
Et on en arrive à l'objet de notre ventre de livre, c'est-à-dire la collecte de fonds.
Oui.
À quoi va servir cette collecte de fonds ? Essentiellement pour le comité anti-expulsion, à aider au paiement des taxes qui sont exigées au moment de la remise...
Le timbre fiscal.
C'est un timbre fiscal au moment de la remise de l'autorisation de séjour.
Cher, je suppose, c'est onéreux.
Alors, par personne pour un adulte, c'est 600 euros. 600 euros pour des gens qui n'ont pas le droit au travail, hein, je vous rappelle. Ça fait pour une famille, un couple, c'est donc 1200 euros à fournir le mois qui suit.
C'est un tarif départemental.
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Et c'est voilà. Donc, on en arrive à l'objet de notre vente de solidarité, c'est-à-dire que nous, on s'est engagé à fournir une partie de ces sommes qui auparavant étaient réparties équitablement entre le CCRS, les organismes sociaux officiels, le provisionnement par la personne elle-même, par les personnes elles-mêmes, et nous à hauteur d'un tiers. Mais les autres sources étant taries, comme on disait tout à l'heure, on est amené à fournir un tiers en dons, un tiers en prêts, bon, sur l'honneur, remboursable sur l'honneur, de ces sommes. Donc, il faut pouvoir disposer de sommes en cas de bonnes... Parce que maintenant, ça devient des bonnes surprises. Les annonces de régularisation, elles sont tellement exceptionnelles que ce sont des bonnes surprises. Mais malgré tout, il faut être réactif
dans le mois qui suit, et pouvoir donner rapidement
une aide. Sinon, l'autorisation de séjour devient caduque. Hein, voilà.
Ouais. Rappelez-vous qu'une autorisation de séjour... n'est pas éternelle. Au bout d'un an, elle peut être renouvelée.
Elle est renouvelable annuellement. C'est-à-dire qu'il y a encore 180 euros à donner tous les ans pour renouveler cette autorisation de séjour. Alors, il y a eu un progrès avec des autorisations de séjour pluriannuelles, mais qui sont délivrées au compte-gouttes. C'est-à-dire que ça peut atteindre 5 ans maintenant, mais c'est... Les premières années, c'est renouvelable un an. Ensuite, peut-être, si on se présente bien avec un bon dossier côté travail, ça peut être 2 ans. Voilà. Alors, ce que je tiens à souligner aussi, c'est qu'on a eu des situations où les gens, avec une carte de séjour annuelle, eh bien, avaient trouvé un travail régulier. Mais les retards dans le renouvellement, parce qu'il y a un retard maintenant, fait que l'employeur dit « En attendant, je ne peux pas vous garder parce que les préfectures traînent, paraît-il, submergées. Il suffirait qu'ils donnent des cartes pluriannuelles, ils ne seraient pas submergés. Mais la bonne volonté, elle n'est pas là, quoi. Donc, s'il y a 3 mois de retard dans le renouvellement de la carte, ce qui devient très fréquent, régulier...
Oui, d'accord.
Les employeurs disent je suis hors circuit, je peux pas garder quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de séjour à jour. Donc, alors c'est des situations
c'est navrant.
C'est épuisant, navrant. Mais en pensant surtout aux bénéficiaires, on n'a pas.
Humainement, ce que ça représente.
C'est difficile.
Il s'agit ici des cartes de séjour, on pourrait dire des cartes de séjour temporaires. Il ne s'agit pas des réfugiés. Hein.
Oui,
les réfugiés, c'est un autre dispositif. Hein. Là, ce sont les gens qui arrivent sur le territoire, qui ne demandent pas le droit d'asile.
Hein. C'est... Ou alors qui ont été déboutés.
D'accord.
Voilà. Et puis, il y a aussi des aides ponctuelles, en plus de ces aides au paiement des taxes. Il y a des aides ponctuelles parce que y a des gens qui, n'ayant pas les moyens, ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité, un loyer de temps en temps.
Bon.
Alors, ces aides-là, le comité, en fonction de ses moyens du moment... peut être amené à débloquer quelques sommes dépannage.
Et à mobiliser le réseau, on va dire.
Voilà.
Il y a même une autre association qui s'est créée, d'ailleurs, Saint-Onge Solidarité Sans Frontières, avec laquelle, qui existe légalement aussi, qui est une association, qui n'est pas un comité, et qui collecte des fonds, et dont l'objectif, justement, et le seul objectif, c'est d'aider financièrement, matériellement, et non pas sur le plan juridique, puisque ça, c'est le travail du CAE, pour aider des étrangers qui sont en difficulté. Là, par exemple, l'association Solidarité, Saint-Ange Solidarité Sans Frontières, a aidé une jeune femme à payer ses études.
Voilà, c'est pour les demandeurs qui ont reçu une autorisation de séjour, pour les aider dans leur formation, démarche ensuite, pour trouver du travail. Ouais. C'est moins ciblé sur les demandeurs.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Donc, on va rappeler aux auditeurs que s'ils ont envie d'avoir une action de solidarité, c'est venir à cette foire aux livres et de vieux papiers le samedi 20 octobre à la salle centrale près de la médiathèque de Saintes. C'est de 9h à 18h. Et vous serez là, peut-être, messieurs, pour... Je vois qu'il y a des tables d'échange où vous allez
Aussi bien Emmaüs que le CAE.
Voilà, vous serez présents.
Présents pour répondre aux demandes de renseignements, de...
C'est le moyen pour chacun des deux organisateurs d'échanger avec les gens qui sont là pour expliquer que c'est pas seulement une vente de livres, c'est pas pour s'en mettre dans la poche, c'est pour aider des gens qui sont en difficulté.
Voilà.
Et par ailleurs, concernant Emmaüs, je vous engage à aller voir le film. Le film I Feel Good de Benoît Delépine, qui a été tourné dans un centre Emmaüs et qui est assez poignant parce qu'il montre la vie de ces gens dans une très grosse communauté, bien plus grande que la communauté de...
Oui, mais c'est une image qui reflète quelque part bien, même si c'est traité sur le mode humoristique, bien sûr. Et puis, après, il y a un road movie, comme dans tous les films de Carverne et de Delépine, le portrait qui est dressé en général de la vie à la communauté, avec les compagnons, avec les comportements personnels, avec les malheurs personnels aussi de chacun. C'est une bonne image, je trouve. Ça donne une image, moi qui connais un peu la communauté de Saint-Romain, qui est parlante quand même. Et émouvante quelque part aussi. Ouais. J'espère qu'il va passer à la salle de pont. J'ai regardé, mais j'ai pas vu.
Il passe à Saintes en ce moment.
Et il est passé à Saintes.
Il est passé à Saintes. Puisqu'il est sorti il y a 3 semaines.
Et en présence de Benoît Delépine.
D'ailleurs.
Qui est un sacré bonhomme. qui a témoigné de la vie de cette communauté et qui a dit que c'était quand même un exemple. Hein, de gens qui se respectent, qui font, voilà. Qui essaient de vivre par eux-mêmes, qui se débrouillent, qui se décarcassent pour essayer d'avoir de quoi vivre, d'échanger.
Bon. Et puis, ils sont partis maintenant. Emmaüs fait partie de l'économie sociale et solidaire.
Ouais.
Et parfaitement dans le ton des préoccupations consumériste ou anti-consumériste, puisque c'est de la récupération, de la remise en état, de l'entretien et de la revente de matériel qui sont tout à fait... bon, en dehors des livres, hein, bon, des livres on connaît, mais il y a un échantillonnage de...
Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut.
Oh, pratiquement, oui.
Il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de demander à la planète de...
Voilà,
produire des choses qui existent déjà et il y a beaucoup...
Et participe dans ce sens-là, oui, à cette démarche-là.
Oui, bien sûr,
tout à fait honorable.
Voilà. Eh bien, merci messieurs d'être venus jusqu'à nous ce matin et de nous informer donc de cette foire aux livres qui aura lieu donc samedi 20 octobre de 9h à 18h à la salle centrale près de la médiathèque à Saintes.
Et merci à Radio pour nous avoir accueillis.
Et merci à Sylvie.
Très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.